With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Coucou. Avant de commencer ce podcast, j'ai une petite annonce à vous faire. Les 4 et 5 mai prochains, je vais à Lille animer un atelier « Lance ton podcast » ouvert aux débutants. Si vous voulez vous inscrire, le lien de l'événement est dans la barre d'informations. Je me dis ouvertement féministe depuis 8 ans. Je pense plutôt bien connaître le sujet, être capable de débattre quand il le faut, mais je me souviens que j'ai parfois eu peur de m'exprimer sur les questions de sexisme. Et quand je dis que j'ai eu peur, ça n'a jamais vraiment été du jugement de personnes qui se disent éloignées de cette cause. Moi, j'ai toujours eu peur que ce soit des militantes féministes qui m'accusent d'être une mauvaise féministe. J'ai souvent eu l'impression que la bienveillance, cette qualité tant louée par le milieu militant, est loin d'être règle d'or dans les faits. La perfection devient une nécessité, exigée si vous ne voulez pas recevoir l'étiquette de problématique. Et comme cette question de bon ou mauvais féminisme me perturbe pas mal, j'ai décidé d'aller à la rencontre de 3 militantes au parcours bien différent. 3, 2, 1...
C'est quoi une mauvaise féministe ?
Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise féministe vraiment. On est la féministe qu'on est. J'aime pas donner des bons points et des mauvais points.
Mais... En fait, mauvaise féministe, ça m'évoque l'expression qu'on dit à... toutes les féministes.
Pour moi, il n'y a pas de mauvaise féministe, il n'y a que parfois des féministes ridicules. Je pense notamment au mouvement des Antigone, qui sont des féministes d'extrême droite. Elles sont légitimes à se considérer comme féministes, même si leur féminisme à elles, c'est un féminisme qui ne correspond pas à la définition du féminisme.
Il y a des mauvais féministes au masculin. C'est-à-dire qu'un homme qui se dit féministe et qui fait de la bonne grosse merde à côté, ça pose vraiment problème.
Je préfère être une mauvaise féministe que ne pas être féministe du tout, quoi.
Je m'appelle Anaïs Bourdet, je suis la créatrice de Paytachneck, j'ai 34 ans, j'habite à Marseille, je suis graphiste. Alors Paytachneck, je l'ai ouvert en 2012, à l'époque il y avait une vidéo de Sophie Peters, peut-être que tu as vu, qui avait filmé en caméra cachée les comportements des hommes à son égard à Bruxelles. Et la vidéo, elle faisait un buzz pas possible, et comment dire, il y avait un gros débat, du coup c'est la première fois qu'on a parlé de harcèlement de rue, etc. Il y avait beaucoup de racisme autour de ce débat, parce que la vidéo elle a été tournée dans un quartier assez à forte population immigrée, on va dire. Et moi, quelques jours après avoir vu cette vidéo, déjà en la voyant, j'ai compris que c'était très violent, quand c'était une autre femme qui le vivait que moi. Et j'ai été poursuivi en voiture par un mec quelques jours après, donc j'en ai parlé à mes copines pour la première fois. Elles y sont toutes allées de leurs expériences et ça m'a donné l'idée de récolter tous les propos qu'on nous adresse dans la rue en tant que femme. C'est comme ça que le blog est né, quoi.
C'était un Tumblr.
Mais je pensais pas du tout que ça allait devenir connu ou ni même particulièrement militant. Donc du coup, c'était pas prévu, quoi. C'est allé super vite. J'ai ouvert le blog. Moi, je l'ai envoyé à des copines en privé sur Facebook. Et 5 jours plus tard, il y a, je crois, Rue 69 qui a fait un article dessus. Et là, en fait, j'ai commencé à recevoir énormément de témoignages et j'en recevais 150 par jour. Le principe, c'était de vraiment lister juste les phrases que les hommes nous adressent dans la rue. Mais je me disais même pas, je disais que des conneries à l'époque, je me disais même pas féministe ni quoi que ce soit. J'avais identifié un problème, mais je le connaissais pas en fait, je l'avais pas analysé. Et je me suis renseigné, j'ai commencé à découvrir les différents courants féministes, etc., à déconstruire le sujet dont je traitais moi-même. Et j'ai fait un virage plus militant au fur et à mesure que mon engagement a pris de la place dans ma vie aussi, quoi. Ah oui, alors du coup, ça a fini un jour, il y a une amie avocate qui m'a contacté pour me demander si elle pouvait ouvrir un pay-ta-robe sur le milieu des avocats. J'ai trouvé l'idée géniale. Du coup, j'ai ouvert un paye-ton-taf en me disant il faut qu'on puisse témoigner dans toutes les sphères professionnelles. Mais très rapidement, j'ai fait un appel en fait sur Paytachneck en disant ouvrez des paye-ton dans vos sphères à vous. Et du coup, maintenant, il y a à peu près 35-40 projets déclinés avec paye-ta-fac, paye-ton-bahut dans l'enseignement, paye-ta-robe pour les avocates, paye-ta-blouse pour le milieu médical, paye-ton-IVG, paye-ton-gynéco. Enfin, il y a vraiment énormément de déclinaisons et on est une cinquantaine de personnes maintenant à gérer toute la galaxie de projets en fait qui existent. Donc j'étais invité à un débat sur les violences faites aux femmes à la mairie de Saint-Denis. Il y avait Françoise Vergès, Daniel Obono, des syndicalistes du Parc Hayat et le collectif Les Dionysiennes. Et à la grande surprise générale, 5 minutes avant le début du débat, Tariq Ramadan se pointe et se cale au deuxième rang dans le public. Donc ça a fait un mouvement de panique un peu parmi nous parce qu'on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Parce que c'est évidemment un énorme problème qu'un mec qui a plusieurs accusations de viol sur le dos se sente totalement légitime à se pointer dans un événement féministe qui va parler précisément de ces violences-là. Donc on était toutes sidérées de se dire mais comment le mec ose se pointer ici, quoi. Et clairement, on pouvait légalement pas le virer parce qu'on est dans un lieu public, on était dans la salle des mariages de la mairie de Saint-Denis. Donc clairement, on n'a pas le droit de virer. Il a le droit d'être là, en fait. Il n'est pas encore jugé, etc. Et du coup, la discussion entre participantes du panel, c'était est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on se barre en signe de contestation, en refus de sa présence ? Il se trouve que moi, j'avais fait 600 km pour... parce que je viens de Marseille, j'avais fait 600 km pour venir. Et je me disais, il est hors de question que parce que lui fait 500 mètres, parce qu'il habite pas loin, lui fait 500 mètres et se pointe, moi, faudrait que je m'en aille. Donc des femmes, certaines ont décidé de s'en aller, ce que je comprends, mais vraiment intégralement et parfaitement. C'est très compliqué de rester dans la même pièce qu'un agresseur quand on est soi-même victime, et qu'au final, le panel s'est maintenu. Mais voilà, et du coup le débat n'a pas pu avoir lieu, hein, puisque toutes les interventions visaient à lui faire comprendre, on lui a toutes fait comprendre, enfin pas moi, mais celles qui ont pris la parole en premier, fait comprendre que sa présence était ultra gênante, qu'il fallait qu'il s'en aille, et il a résisté silencieusement, donc on n'a jamais réussi à mener ce débat vraiment. Et puis il y a un moment, donc c'était déjà très violent, parce que ben voilà, on voyait bien que, enfin, moi j'étais dans un état de sidération, en plus je suis un bébé militante, donc je m'attendais absolument pas un jour à croiser Tariq Ramadan dans ma vie. C'était hyper impressionnant pour moi, et du coup là la situation était hyper violente par sa présence, par le fait qu'on soit toutes choquées unanimement, on savait plus où se mettre, quoi. Et puis à un moment donné, il y a une femme qui se lève du public et qui vient vers moi et qui me jette un papier dessus. Sur le papier, il était écrit honte à vous pour votre complaisance avec un violeur. Et là, en fait, moi, j'ai failli craquer, en fait, parce que c'était déjà très violent. J'ai fait tourner le papier aux autres participantes. On a toutes été choquées. Et en fait, ce qui m'a choqué, donc déjà, j'étais effectivement, le principal source de choc, c'est la présence de Tariq Ramadan. On est d'accord qu'il aurait jamais dû se pointer là et que c'est affreux qu'il se pointe. Mais du coup, en plus, on m'accusait de complaisance avec lui, comme si du fait qu'on soit militante, on oubliait qu'on était avant tout des femmes. Et on s'est toutes senties un peu obligées de sauter sur le fait qu'on était des victimes de violence, en fait. Il a fallu qu'on se justifie en disant, je me rappelle que Daniel Obono a fait un tweet en disant, on est toutes des survivantes. Et c'est affreux, hein, d'avoir à dire qu'on a été violé pour qu'on arrête de nous dire qu'on est complaisante, qu'on fait de la complaisance avec un violeur. C'est juste qu'on n'a pas adopté la même stratégie. Et du coup, moi, c'est ça qui m'a. J'étais déjà en état de sidération, mais alors là, ça m'a tué, quoi. Et puis voilà. Puis après, il y a un syndicaliste qui a pris la parole et qui nous a chié dessus, quoi, grosso modo. Et là, du coup, j'ai pété un plomb. Je me suis levé, je suis allé fumer une clope dehors, j'ai pleuré dehors parce que j'ai dit, je suis pas là pour me faire emmerder toute ma life par des hommes. C'est bon, là, ils sont deux, ils arrivent à fusiller un événement où il y a 50 femmes, quoi. Donc voilà, ça c'était pour moi, ça a été un épisode très très violent. Et quand je suis rentré à Marseille, je suis tombé dans un burn-out militant, quoi. J'ai décidé de tout mettre en pause parce que c'était, je suis pas câblé pour ça. Moi, je suis un bisounours dans ce milieu, je pense. Et du coup, voilà, ça a été. Je me rappelle de ces deux violences, quoi. Sa présence à lui et du coup, cette femme-là, son regard, cette accusation-là, qui est très dure à porter quand t'es toi-même victime, quoi. Et quand même, tu le serais pas, en fait, hein, mais bon, quand tu l'es, c'est lourd, quoi.
Et comment ça s'est manifesté, ce burn-out militant ?
Bah déjà, le craquage en larmes continue, quoi. À peine je suis arrivé, j'ai vu une copine à moi et je lui ai fondu en larmes dans les bras, alors que ça faisait deux jours que je disais tout va bien, je gère. Et puis l'incapacité absolue à ouvrir mon ordinateur. Je voulais plus ouvrir mon ordi, plus regarder mon téléphone, je voulais plus rien savoir. En plus, ça a fait un gros buzz médiatique et dans les médias, on se concentrait beaucoup sur le fait qu'on soit pas parti. Et on parlait même plus du fait que le problème, c'était que Tariq Ramadan se pointe, en fait. C'est ça le gros problème. Du coup, ça a été violent. Du coup, ça a commencé à se manifester en ligne aussi. On nous a commencé à nous reprocher énormément de choses. Pas à moi principalement, parce que les principales cibles, ça a été Françoise Vergès et Daniel Obono, hein, comme par hasard. Déjà, elles sont plus connues que moi. Et en plus, c'est deux femmes noires, etc. Donc, c'est des cibles privilégiées, on va dire. Et donc là, on a eu, mais alors sur Twitter, etc., c'était d'une violence pas possible. Et moi, j'en tremblais, quoi. Je savais plus quoi faire. J'ai publié un texte quand même pour régler les choses parce qu'on nous accusait, on se demandait carrément s'il n'avait pas été invité. Enfin, c'était n'importe quoi, ça partait dans tous les sens. Donc je me suis senti obligé de prendre la parole et de faire une espèce de démenti, de dire qu'il n'y a eu aucune complaisance avec lui, de réaffirmer mon soutien auprès des femmes qui sont parties. Depuis, je n'arrive plus du tout à m'occuper de Paytachnek ni de Mauvaise Compagnie à côté, la boutique d'affiches. Je n'y arrive plus. Je suis en incapacité totale.
Ça fait combien de temps ?
Ça fait 3 semaines.
Ouais. Tu penses que tu reprendras un jour ?
Oui, c'est sûr. Justement, je fais une pause pour mieux reprendre. Mais là, il faut que je me préserve. En fait, j'ai senti que ma santé mentale prenait un coup et que si je forçais, je pouvais craquer définitivement. Alors qu'il vaut mieux que je fasse une pause et que je reprenne quand je suis en forme. Je pense que c'est un des grands enjeux du féminisme, d'ailleurs, le self-care, de faire de la course de fond et de prendre des temps de récupération, de préparation mentale, physique.
Je m'appelle Irénée, je suis la plus belle, j'ai des belles fesses.
Est-ce que tu peux faire une vraie phrase pour te présenter ?
Je m'appelle Irénée, je suis étudiante et je suis aussi féministe, extrémiste, hystérique, etc. Donc il y a quelques semaines, pour le 8 mars, il y a une amie photographe qui m'a contactée, qui m'a dit « on prépare un petit truc pour le 8 mars, est-ce que ça dit de participer ?» On s'est mis d'accord pour une heure pour aller à la République vers 14h. Et l'idée, c'était de se déshabiller en plein milieu de la place, de rester en lingerie très cliché, lingerie sexy, des bas, des porte-jartelles, de la dentelle, et de prendre des photos comme ça, avec plusieurs femmes du coup inconnues. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et en fait, ce qui était très chouette, c'est qu'on était très différentes les unes des autres, que ce soit parce qu'il y avait plusieurs âges différents ou parce qu'il y avait plusieurs morphologies différentes et tout ça. Donc déjà, c'était chouette. Donc ça a attiré pas mal l'attention, évidemment, des nanas qui se déshabillent dans une place, voilà. Donc on a pu répondre à des questions et tout, expliquer pourquoi on le faisait, c'est-à-dire parce que nous, on est féministes, mais féministes, ça veut pas dire qu'on n'aime pas la dentelle, etc. Il y en a plusieurs d'entre nous qui ont fait pas mal de shooting nu, etc. Et que ça fait pas de nous des mauvaises féministes. Et que ce qu'on veut, c'est nous réapproprier notre corps, c'est-à-dire nous déshabiller pour nous, prendre des photos de nous entre nous, mais pas que notre corps soit instrumentalisé et être déshabillé pour vendre des pots de yaourt, quoi. Et du coup, c'est ça l'idée. Mais du coup, évidemment, quand tu postes ça sur Instagram, y a beaucoup de gens qui trouvent ça cool. Mais il y en a beaucoup qui te disent... Non, mais vous utilisez des codes patriarcaux, vous mettez des porte-jartelles, pourquoi vous faites ça, mauvaise féministe. C'est juste un peu fatigant de voir des nanas qui te critiquent pour tout, quoi. Qui te critiquent quand tu te déshabilles, mais que c'est les mêmes qui te critiquent les femmes voilées, donc c'est toujours les mêmes.
Et toi, tu leur répondais à ces commentaires ?
Bah oui, je réponds qu'on fait ce qu'on veut, en fait, que... En fait, lutter contre l'hypersexualisation, c'est pas nier qu'on est des êtres sexuels, en fait. Enfin, moi, je lutte contre le fait qu'on est systématiquement hypersexualisé, quoi qu'on fasse. Quand tu manges une banane, t'es sexualisé, en fait. Que dans toutes les pubs, t'as ta nana à moitié à poil, mais juste pour vendre un produit. Mais après, dès que toi, tu te mets à poil, on t'insulte, on te met des amendes, etc. Mais en fait, pour moi, dénoncer l'hypersexualisation des femmes, ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'être sexuelle, quoi. Enfin, ben non. En février, j'ai passé une journée sans protection périodique dans Paris. Du coup, avec le sang entaché, etc. Et ça a fait pas mal de bruit parce que du coup, ça attire l'attention forcément des médias. Et bah du coup pareil, il y a toujours des gens qui te disent non, c'est pas du féminisme parce que trop vulgaire, trop sale, ou on te dit ah les féministes d'aujourd'hui, enfin comme si il y a dans les années 60 on faisait pas ce genre de truc.
Ouais. Mais moi je me souviens que je t'avais vu et t'avais pas l'air très bien quand ça s'est passé. Ouais, je sais pas si tu en parles.
Bah non, si ça va. Enfin juste, j'étais un peu fatiguée parce que d'un coup, tu te retrouves à devoir répondre à 15 000 messages d'un coup et que c'est juste envahissant, quoi. Mais non, ça va.
C'est juste fatigant de répondre à tout le monde.
Ouais, c'est fatigant. Surtout qu'au début, tu te forces à répondre à tout et au bout d'un moment, tu te dis, non, désolé, j'ai une vie.
Le témoignage qui suit est celui de Loubna. Elle ne vit pas à Paris, mais a un micro chez elle avec lequel elle a enregistré sa voix à distance. C'est pour cette raison que le son ne sera pas exactement le même que sur les deux témoignages précédents.
J'ai la trentaine, je suis ex-travailleuse du sexe et je fais des podcasts en attendant les minima sociaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire travailleuse du sexe ? Ça veut dire pute. Moi, j'ai découvert le féminisme notamment à travers l'abolitionnisme. J'étais abolitionniste au début. C'est un féminisme qui considère qu'il faut abolir la prostitution parce que la prostitution est une violence faite aux femmes. Donc c'est pas une mauvaise idée en soi, mais aujourd'hui l'abolitionnisme se caractérise principalement par la défense d'une loi de pénalisation des clients, qui est pas du tout la vision qu'ont les travailleuses du sexe de ce que devraient être leurs conditions de travail. Alors, comment je suis passée d'abolitionniste à travailleuse du sexe ? Il faut savoir que je suis d'abord passée de abolitionniste à féministe intersectionnelle. Donc déjà, ça a été un gros changement dans ma vie. Et plusieurs années plus tard, je suis devenue travailleuse du sexe. Sans qu'il y ait vraiment de corrélation entre les raisons pour lesquelles je suis devenue travailleuse du sexe et les raisons pour lesquelles j'étais féministe, en fait. C'était plutôt des questions financières. Comme j'étais beaucoup présente sur les réseaux sociaux, en fait, j'ai été beaucoup amenée à parler féminisme et prostitution. Et c'est vrai que souvent on considère que les prostituées ne peuvent pas être féministes. Je pense qu'il y a une différence en fait, que les gens ne comprennent pas, que c'est pas ton statut qui fait de toi, c'est pas ton métier qui fait de toi une féministe ou pas, mais ta vision des choses, c'est-à-dire que tu peux être mère au foyer et féministe, tu peux être prostituée et féministe, actrice X et féministe. En fait, on est toutes contraintes par la société dans laquelle on vit et on peut pas toutes exercer des métiers féministes en fait. Et du coup, les mouvements de travailleuses du sexe féministes clament pas forcément, même si je reconnais qu'il y a parfois une vision un peu trop pro-sexe, clament pas forcément que la prostitution ou la pornographie est féministe en soi, mais par contre qu'on peut être féministe, qu'on peut défendre les femmes qui font ce genre de métier, parce qu'il ne faut pas les exclure et essayer de les faire disparaître dans une société où de toute manière elles n'ont pas forcément une palette de choix qui est extrêmement large en fait. Il y avait eu un débat sous une publication du planning familial justement, puisque c'est une association abolitionniste qui s'est positionnée contre la pénalisation. Et on était plusieurs à expliquer qu'on était travailleuse du sexe, pas forcément par libertinage en fait, mais que les conditions de travail étaient difficiles, qu'on était dans une société où il y avait beaucoup de chômage, que beaucoup d'entre nous étaient malades, etc., etc., enfin, malades psy, ou des petits handicaps, et que du coup, travailler, c'était trop compliqué pour nous, et je me souviens qu'il y avait eu des abolitionnistes qui disaient qu'on faisait du ouin-ouin, des chouineries, en fait. Un truc qui m'avait marqué dans les débats sur la prostitution, c'était une fois, en fait, une abolitionniste qui avait parlé de son propre rapport, en fait, à des violences conjugales où elle avait été violée dans le cadre de son couple et où elle disait « je peux même pas imaginer ce que c'est que d'avoir des rapports sexuels non consentis à travers la prostitution, donc je suis pro-pénalisation ». Et je m'étais dit « mais non seulement on doit faire de la pédagogie, mais en plus on doit s'occuper émotionnellement des problèmes des autres, c'est-à-dire que c'est complètement hors sujet ». Et je me souviens que j'avais complètement facepalmé à ce moment-là, alors que normalement, une réaction féministe appropriée aurait été de la compassion. Mais j'ai plus ressenti de la colère, parce que je me suis dit, c'est n'importe quoi, en fait, c'est vraiment n'importe quoi. Et ça n'a rien à voir, en fait, c'est hors sujet. Et du coup, j'avais fait comme d'habitude, j'avais balancé ma série de liens que je balance toujours. Mais c'est ça, en fait, il y a un travail émotionnel à faire, y compris avec les abolitionnistes, parce qu'elles ont un rapport à la prostitution qui est faussé de par leur propre vécu, déjà, et de par les histoires qu'elles ont entendues, parce qu'elles sont aussi enfermées dans leur propre cercle, qui est le cercle des prostituées qui ont mal vécu la prostitution, donc les survivantes, et elles refusent d'entendre que la prostitution puisse être vue différemment, y compris par des femmes qui la vivent mal. Parce que moi, j'en connais des femmes qui ont été... j'en connais des femmes qui se sont senties violées dans la prostitution et qui sont toujours contre la pénalisation. Donc, c'est pas une question de... C'est pas une question de vécu, c'est une question de politique, en fait. C'est une question de comment tu te positionnes politiquement. Alors, en fait, moi, à travers les années, je vivais très très mal mes débats avec les abolitionnistes. Et j'ai fini par faire un truc, c'est bloquer la personne, notamment dans les groupes féministes plutôt intersectionnels. Je bloque la personne qui tient des propos trop violents et ensuite je réponds à son message pour les alliés, les autres en fait, ceux qui sont silencieux, qui lisent juste pour donner des pistes de réflexion. Et donc ça c'est un truc que j'ai beaucoup fait sur la fin, c'est bloquer pour moi me protéger de la violence. Et ensuite, faire une réponse posée, calme, avec des liens, des sources, des choses comme ça, pour expliquer les choses, parce qu'il y a beaucoup de faux chiffres, par exemple, qui tournent dans les milieux abolitionnistes. On va dire que, par exemple, 98% des prostituées sont victimes de la traite, ce qui est un chiffre faux, c'est pas 98, c'est pas 80 non plus. Les chiffres officiels des prostituées victimes de la traite tournent autour de 20%. On est dans une société violente envers les travailleurs. Moi, je me sens pas capable de travailler là, maintenant, tout de suite. J'ai tel ou tel traitement, parce que je suis psychotique, en fait. J'ai des traitements médicamenteux qui sont un peu lourds. Je suis pas capable de travailler, forcément. Les minima sociaux sont pas forcément suffisants. Ça, c'est ce que je disais à l'époque, parce qu'aujourd'hui, je suis plus travailleuse du sexe. Les minima sociaux sont pas forcément suffisants. L'AAH.
L'AAH, c'est l'allocation adulte handicapé.
Qui devrait être donnée à toute personne qui a un handicap, ne l'est pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui sont refoulés. En fait, la prostitution, c'est une béquille pour énormément de personnes. Et c'est pas une question d'un côté, celles qui sont libres et qui ont choisi sans contrainte. Et de l'autre, celles qui sont exploitées et forcées. Cette vision des choses complètement binaire, elle est fausse et il faut arrêter avec ce truc de les femmes qui ont choisi librement d'un côté et celles qui sont exploitées de l'autre. C'est beaucoup plus complexe que ça c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de choix qu'on est stupide ou qu'on doit parler à notre place ou qu'on est pro-pénalisation du client.
C'est quoi une bonne féministe pour toi ?
C'est dur comme question.
C'est juste une femme qui peut-être pas qui sait ce qu'elle veut, mais qui cherche à savoir ce qu'elle veut et qui cherche à défendre ses valeurs, quoi.
Il n'y a pas de manière d'être une bonne féministe, en fait. Il n'y a que des manières d'être respectueuse en tant que féministe.
Une bonne féministe, bah après, c'est forcément politique comme réponse. Je vais avoir tendance à aller pousser vers les courants qui, moi, me... auquel j'adhère, quoi. Dire pour moi, une féministe, c'est quelqu'un qui n'exclut aucune femme de ses luttes.
En fait, l'idée, c'est d'être soi-même, quoi, et de défendre ses valeurs et de se défendre sa personne, quoi.
Peut-être une féministe à l'écoute de ce qu'elle ne connaît pas, une féministe qui prend le temps de se renseigner, qui ne se cache pas derrière le fait qu'elle a juste posé une question, parce que certaines questions, on sait très bien que c'est des questions rhétoriques qui sont ultra violentes à entendre. Une bonne féministe, c'est quelqu'un de respectueux pour moi, tout simplement.
Merci à Anaïs, Irénée et Loubna pour leur témoignage. Vous trouverez dans la barre d'informations des liens pour découvrir leur travail, ainsi que des articles ressources pour creuser le point de vue de Loubna sur le travail du sexe. Ce podcast est voué à avoir des suites, des voix d'autres féministes qui viendront raconter à leur tour leurs expériences et peurs. Donc si vous souhaitez participer à un prochain épisode, envoyez-moi un mail à l'adresse perry.anouk@gmail.com. De mon côté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Tour de France du cul qui se passera cette fois-ci à Lyon. Et si vous voulez m'aider à grandir, comme d'habitude, partagez ce podcast autour de vous, commentez et mettez des 5 étoiles sur iTunes. Ici Anouk Perry et je vous embrasse. PS, les 4 et 5 mai prochains, je vais à Lille animer un atelier Lance ton podcast ouvert aux débutants. Si vous voulez vous inscrire, le lien de l'événement est dans la barre d'information.